L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Voilà, c'est l'atelier numérique sur BFM Business, l'atelier qui fête ses 10 ans ici aux USA. Nous sommes à San Francisco, je vous rappelle, donc un rendez-vous exceptionnel. Tout à l'heure, on va parler de l'Internet des objets avec un Français passionnant qui est le responsable VP d'innovation chez Samsung. Et il viendra répondre à nos questions tout à l'heure. On évoquera avec lui, entre autres, ce hub numérique qui essaie de mettre en place Samsung pour connecter tous les objets. Notre invité, donc, lui, Julia, sera avec nous tout à l'heure. Il nous parlera, entre autres, de son parcours. Il a été un peu le papa de Siri, le Siri d'Apple, vous savez. Donc, on a pas mal de choses à évoquer avec lui. Ce sera dans une petite demi-heure, mais dans l'immédiat. Lila, on va s'intéresser aussi à un gros morceau, parce que, évidemment, on parle de ces 10 ans de l'atelier ici aux US, mais on parle aussi de l'avenir. Et quand on évoque la voiture, la mobilité de demain, forcément, il y a la... San Francisco est au cœur de tout ça. Hein.
Alors, pour en parler, on a un panel assez exceptionnel d'invités. Messieurs, bonjour. Alors, Alexandre Bayenne, bonjour. Vous dirigez l'Institut des études de transport.
L'Institut de recherche sur les transports, ITS.
Voilà, à Berkeley. Parmi vos nombreuses activités et faits d'armes, on a également Serge Passolonghi. Vous dirigez le lab d'innovation de Renault, installé dans la vallée.
Ouais, et puis on essaiera de comprendre pourquoi Renault est ici à San Francisco. Vous allez tout nous dire tout à l'heure.
Hein. Ça va venir. Et on a le plaisir d'avoir Alexandre Hague. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Alexandre Hague, vous êtes responsable du programme Autopilote, donc plus ou moins autonome, chez Tesla.
Et oui, Tesla qui est l'une des stars ici, hein, de la Silicon Valley. Voilà.
Tout à fait.
On va en parler tout à l'heure. Peut-être première question pour Alexandre Bayenne de Berkeley. Bon, la voiture autonome, pourquoi San Francisco, a-t-on l'impression, a le lead dans ce domaine-là?
Je pense qu'il faut déjà concevoir la voiture autonome dans un contexte beaucoup plus riche des transports, puisque vous parliez donc des transports de demain. Je pense que la voiture autonome est une dimension, mais il y a les services, il y a la sécurité, il y a la mobilité comme un service, il y a les technologies, il y a les énergies. Donc, j'imagine qu'on va parler de tout ça aujourd'hui. Oui. Mais c'est vrai que, la voiture autonome, elle est née ici. Hein, en 1997, on a eu les premiers tests de conduite automatique qui étaient faits en Californie, qui ont été conduits par Berkeley, par des équipes qui sont toujours ici, en particulier le docteur Schladover. Et c'est vrai qu'avec un écosystème aussi riche qu'on a avec Google, avec toutes ces entreprises qui finalement ont pu amener cette réalité, finalement la Silicon Valley est restée un creuset où cette technologie est passée d'un projet purement recherche, hein, dans les années 90, à un produit qui est presque opérationnel. Alors on va entendre de la part de Tesla et de Renault, j'imagine, ce qu'il reste à faire pour
que ça devienne... Le mot presque est important. Là,
je pense que voilà.
On verra jusqu'où va le presque.
On verra jusqu'où va le presque, exactement.
Ouais. On va en parler. Ben justement, peut-être à notre autre Alexandre, celui de Tesla. C'est intéressant parce que vous faites partie des dirigeants de Tesla. Vous êtes français, francophone. Ça fait longtemps que vous êtes ici dans la Silicon Valley, Alexandre?
Alors, dans la Silicon Valley, ça fait 6 ans maintenant. J'ai vécu une première fois 3 ans il y a 15 ans. Et ça fait 6 ans que je suis ici cette fois-ci. J'étais rentré en France entre-temps. Et ça fait un an que je suis chez Tesla. Un an chez Tesla, ça parfois représente plus de 3 ans. D'accord. Dans une vie normale.
Vous occupez de tout ce qui est de la partie autonome de voitures Tesla,
c'est... Voilà, c'est ça. Donc, on avait une grosse release.
Mise à jour.
Ouais. Je vais avoir beaucoup d'anglicisme, je m'excuse.
On fait ça depuis 2 heures.
Hein, donc je m'excuse d'avance.
C'est logique. Hein, ici.
N'hésitez pas à me corriger. Il y a 2 mois à peu près, on a fait une mise à jour de toutes nos voitures à travers le monde, avec la fonctionnalité autopilote, qui en gros permet à la voiture de rester dans sa voie et donc de conduire toute seule, de régler on n'a plus besoin d'appuyer sur les pédales, plus besoin de toucher le volant, la voiture reste dans sa voie. Donc pour l'instant c'est de l'assistance à la conduite, c'est pas encore une voiture complètement autonome, le conducteur doit rester dans la boucle, doit prêter attention à ce qui se passe autour, dans les conditions normales, il n'y a plus besoin d'intervenir.
Alors, ce qui est incroyable, c'est que tout ça, c'est dû à une mise à jour, hein, comme on met à jour un PC ou un smartphone. Et là, d'un coup, paf, alors la voiture n'est pas complètement autonome, mais pour certains modèles de Tesla qui sont assez récents, d'un coup, on se retrouve avec un panel. Un matin, on allume sa voiture et on se dit, ben voilà, écoutez, les amis, vous avez une voiture qui est autonome, ça ?
Oui, complètement. Donc ça, c'est souvent une expérience extraordinaire pour nos clients qui en sont encore étonnés aujourd'hui. Donc toutes les voitures qui ont été produites depuis un un an, ont le matériel nécessaire pour supporter cette fonctionnalité. Et fin octobre, on a mis à jour les voitures. Et ça pose d'ailleurs des problèmes d'homologation aussi, parce qu'il n'y a aucun processus en place pour homologuer les voitures après leur livraison au client. Donc là, il faut qu'on travaille avec les autorités pour savoir comment on gère ce genre de choses. Parce qu'en gros, on peut mettre à jour les voitures avec des fonctionnalités qui n'ont pas été approuvées. Et donc, il y a toute une évolution de la législation aussi à faire à ce niveau-là.
On va évoquer tout à l'heure, mais justement, quel est l'avenir de Tesla? Est-ce que vous croyez vraiment à la voiture autonome? On va évoquer ça dans un instant, mais j'avais envie peut-être de poser la question à notre invité de Renault, donc Monsieur Passolunghi, c'est comme ça qu'on prononce votre nom.
C'est pas mal.
Oui. quand on entend comme ça Tesla qui, grâce à une mise à jour, change radicalement, enfin pas radicalement, mais d'une manière quand même assez importante, la manière dont on va appréhender un véhicule, qu'est-ce que vous en pensez chez Renault?
C'est un élément très important de notre stratégie. Évidemment, Tesla, nous on les aime beaucoup parce qu'ils secouent un peu le cocotier. Ils défrichent, ils voient les choses différemment parce qu'ils ont démarré Greenfield.
Ils disruptent, comme on dit ici. Parce que c'est quand même incroyable. Chez vous, c'est culturellement, c'est inenvisageable d'avoir une puce 4G qui mettrait à jour la voiture.
Enfin, on l'envisage très bien. Ouais. Même si
mais
c'est pas la réalité
pas
d'aujourd'hui.
Non,
ce n'est pas le cas aujourd'hui.
On va chez le garagiste, il faut mettre la valise. Enfin, voilà, c'est un truc.
Ou une carte SD choses comme ça.
Voilà, c'est ça. Mais là, on est carrément dans une autre dimension.
On a une stratégie sur la connectivité qui suit ce chemin-là, en effet.
Mais c'est l'avenir, ça, vous pensez?
Oui, l'over the air, comme on dit, la mise à jour, le download de mise à jour de software dans le véhicule, comme on le fait aujourd'hui. Quand le soir on se couche, on pose son smartphone sur la table de chevet. Le lendemain, il a de nouvelles apps et bien sûr.
Donc le véhicule,
c'est une stratégie qui est commune à tous les grands constructeurs automobiles aujourd'hui.
Et ça va commencer sur les véhicules électriques, par exemple la Zoé ou d'autres modèles, ou est-ce que ça sera sur tous les véhicules, même thermiques, à votre avis?
Alors c'est évidemment plus facile sur un véhicule électrique parce qu'un véhicule électrique, il est branché souvent. Et ça veut dire que même quand on est chez nous, il est branché au réseau parce qu'il doit se recharger. Sur un véhicule thermique, ça veut dire qu'un over the air, on va consommer la batterie. Et la batterie, le matin, on en a quand même besoin pour redémarrer. Parce que si on démarre pas parce qu'on a mis les mises à jour, c'est un peu embêtant.
Que la mise à jour se fasse quand on roule, par exemple.
C'est plus difficile parce que ça prend du temps. Mais de toute façon, oui, plus facile sur du véhicule électrique, évidemment. Mais évidemment, on prévoit ça sur l'ensemble de la gamme, oui.
D'accord. Et à quel horizon, à votre avis, ça pourrait arriver quand, ça?
Alors aujourd'hui, on a une roadmap qui nous fait changer l'ensemble de notre système connectivité, parce que il vaut mieux parler de système, parce que ça veut dire une voiture, ça veut dire du off-board, du cloud, en tout cas de l'intelligence débarquée, ça veut dire aussi de la connectivité 4, 5G, LTE. Mais tout ce système-là va être renouvelé à horizon 2018.
D'accord. Tesla vous a donné, j'allais dire, un coup de pied aux fesses un petit peu.
Bien sûr.
En termes de technologie, d'une nouvelle manière d'appréhender le véhicule.
Non, mais c'est pour ça qu'on les aime. c'est pour ça qu'on les aime. Mais oui, bien sûr, qu'ils ont disrupté, comme on dit, la façon dont on conçoit une voiture, et pas que sur le software, y compris sur l'électronique de puissance, sur l'architecture véhicule aussi. Oui.
Romain Chaperon de l'atelier US veut poser une question.
Oui, justement, Serge, vous êtes depuis 2013 le directeur de Renault Innovation Silicon Valley. Pourquoi un groupe franco-japonais comme Renault-Nissan a besoin d'être présent ici, dans la Silicon Valley?
Parce que tout le monde est là. La conscience de la nécessité d'être dans la vallée remonte à 2008, même si on s'est installé en 2011, tout simplement parce que vous savez qu'en 2008-2009, l'industrie automobile, comme d'autres, a eu quelques difficultés. Donc on a mis en place ça en 2011, sans idée vraiment préconçue à ce moment-là. Et depuis 2013, maintenant, on est vraiment intégré et, je dirais, empoweré. Je pense que c'est un mot qu'on peut utiliser un peu en français. En tout cas, challengé par la maison mère sur un certain nombre de sujets, et notamment connectivité, véhicules connectés, véhicules autonomes et nouvelle mobilité, comme on dit, c'est-à-dire nouveaux services.
Lila ?
Oui, j'avais une question pour Alexandre Bayen.
De Berkeley.
Vous êtes de Berkeley. Vous êtes un grand observateur des transports. À quoi ressemblent les transports à la fois d'aujourd'hui? Vous réfléchissez également à quoi pourraient ressembler les transports intelligents de demain. Vous, à quel point nos transports aujourd'hui sont intelligents et à quel point seront-ils intelligents demain? Est-ce que ce sera un mix de plusieurs modes en termes d'usage?
Comment imaginez-vous la voiture alors de demain?
Déjà, la voiture, c'est plus que la voiture. On parle beaucoup de voitures, mais il faudrait parler de camions, de bus et même d'autres véhicules. Donc ça, on va en parler un peu. Effectivement, comme vous l'avez
dit... Les trucs qui volent ou pas aussi, non?
Et pourquoi pas, la voiture qui vole. On nous l'avait promise pour les années 90. Ouais. Bon, il y a des petits retards dans les livraisons.
Mais vous y croyez sincèrement ou pas?
Bien sûr, on y croit, mais elle existe déjà. Et de même que la voiture automatique existait en 97, elle avait été testée sur l'autoroute 15 à San Diego, même en caravane. Il y en avait 8 avec 8 conducteurs qui mettaient les mains par la fenêtre et Al Gore qui a coupé le cordon pour la cérémonie. Mais si vous voulez, entre la construire et la produire, on a vraiment, là, on a plus de 15 ans. Donc, pour revenir à votre question, c'est vrai, à Berkeley, à l'Institut de recherche sur les transports, on essaie de voir un petit peu le futur. Et donc, votre question sur à quel point les véhicules sont intelligents, si vous voulez, il y a encore énormément d'intelligence à acquérir. Donc, aujourd'hui, tout le monde est focalisé sur la voiture, mais il faut savoir qu'on a déjà des lignes de bus qui sont sans conducteur. Donc, par exemple, à Eugene, dans l'Oregon, Berkeley a mis en place un bus et donc le conducteur, en fait, ne touche pas le volant. Alors évidemment, c'est un petit peu surprenant pour les passagers, mais ça marche bien.
Mais il y a
bien.
Toujours un conducteur à l'intérieur.
Bien sûr, pour les mêmes raisons qu'Alexandre évoquait pour la Tesla, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans une socialement, on va dire que c'est pas acceptable de ne pas avoir un conducteur, même si le conducteur ne fait rien.
On peut dire. C'est-à-dire que technologiquement, c'est acceptable.
Technologiquement, c'est acceptable.
Nous sommes pas prêts, en fait, voilà, c'est ça.
On n'est pas prêts. C'est du même type que qui est prêt à monter dans un drone. Sans pilote. Il y a encore, je pense, aujourd'hui on peut le faire dans le métro, il y a plein de métros dans le monde hein, qui ont plus de conducteurs.
Notamment la ligne 14 à Paris qui se conduit toute seule.
Et beaucoup d'aéroports, le MRT à Singapour, etc. Alors d'autres, puisque vous parlez du
futur.
Mais
ça va venir ou pas ça, Alexandre? C'est-à-dire que petit à petit, je veux dire, on va s'imbiber de toutes ces nouvelles technologies. Et ça sera plus un problème le fait de monter dans un bus qui n'aura plus de conducteur.
Absolument, absolument. C'est culturellement quelque chose qui va mettre du temps. Mais si vous voulez, il y avait une époque où les gens avaient peur de prendre le train. Et donc aujourd'hui, voilà. Et donc deux autres exemples très rapides avant de repasser la parole à Alexandre. Pareil pour les camions. On a déjà des camions qui fonctionnent en platoon, en caravane, de manière automatisée. On a même des chasse-neige sans conducteur. Vous imaginez un chasse-neige sans conducteur aujourd'hui. C'est voilà. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'intelligence à acquérir d'un point de vue technologique, et peut-être dans la deuxième partie de l'émission on parlera aussi de l'intelligence humaine, c'est-à-dire que quand on voit l'émergence des services comme Uber, etc., c'est plus que de la robotique parce que maintenant on a l'humain dans la boucle.
Waze aussi,
et
notamment.
Waze, bien sûr, tout à fait, dont on pourra parler plus tard.
Alexandre.
Ouais, je voulais rebondir sur ce que disait Alexandre, homonyme, et à la fois sur la partie connectée et sur la partie acceptance, comment on dit français ?
Acceptation.
Acceptation. donc effectivement, l'approche de Tesla, c'est on est bien conscient de cette limite d'acceptation par le grand public et par le législateur. Et l'approche, en fait, c'est vraiment de collecter un maximum de données.
Très bien.
Un maximum de données pour démontrer que la conduite autonome, en fait, est plus sûre que la conduite manuelle.
Et vous en êtes persuadé aujourd'hui?
Non, aujourd'hui, c'est pas le cas encore, mais ça va venir rapidement. Et
l'humain est meilleur que l'intelligence artificielle pour conduire un véhicule?
Alors aujourd'hui, c'est clair, il n'y a absolument aucune question que l'humain est meilleur que la machine. Par contre, la machine fait de gros progrès et rapidement, la machine va être meilleure.
C'est un peu comme les échecs dans les années 80 hein, ou 2000.
Alors, il arrivait Deep Blue.
Voilà, non, mais c'est vrai. Il y a eu un avant et après, on va dire, la bataille... et la victoire de IBM, c'était IBM, je crois, hein, contre l'humain, hein, dans le domaine des échecs.
Et ce que je veux dire, c'est que là où l'ordinateur a un avantage phénoménal, c'est qu'il ne boit pas, il ne texte pas, il ne dort pas. Et donc c'est comme ça que l'ordinateur va gagner le début de la bataille. C'est parce qu'il va être en moyenne plus sûr que le conducteur moyen. Et donc c'est là où je voulais rebondir sur la partie connectée. Donc, ce que tout le monde voit assez bien, c'est que la partie connectée, ça permet de mettre à jour le véhicule, de proposer de nouvelles fonctionnalités, etc. Mais il y a toute la partie upload aussi qui permet de remonter des données et notamment de pouvoir conduire avec le mode autonome inactif, mais en fait qui tourne derrière pour savoir ce qu'il aurait fait. Et ça permet de comparer le mode autonome avec ce que fait le conducteur. Et du coup, après, on peut accumuler des centaines de millions de kilomètres en disant, voilà, sur 200 millions de kilomètres, on a eu X accidents. le système, l'ordinateur, on aurait eu 10 fois moins ou quelque chose comme ça. Et du coup, là, on aura des arguments clairs vis-à-vis du grand public et vis-à-vis du législateur pour dire, bon, bah, je pense que là, il faut y aller parce qu'on va, on va sauver des vies. Quoi.
Alors, vous restez avec nous, messieurs. On revient dans un instant pour la suite de cet atelier sur BFM Business. Et vous allez nous dire, bah, quand est-ce que vous imaginez cette vraie voiture autonome? Est-ce que ça aura un sens pour tout aussi, une voiture autonome? Franchement, on peut se poser la question. On en parle dans un instant avec nos invités de Tesla, de Renault et de Berkeley. À tout de suite, l'atelier depuis San Francisco.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business. Merci d'être avec nous. Un atelier exceptionnel puisque nous sommes à San Francisco, vous le savez, et avec nos invités prestigieux, à la fois Tesla, Renault et Berkeley, on évoque Lila aujourd'hui, la voiture de demain qui sera forcément autonome. Et évidemment, on se pose tous la question, quand est-ce qu'elle va arriver, cette voiture autonome?
Alors, à la fois ça et quel impact ça va représenter sur nos usages. J'avais une question un peu à lancer à ces messieurs à la ronde. Qu'est-ce que ça va changer à la fois pour notre vie privée, le véhicule autonome et également professionnel? Est-ce qu'on n'aura pas une difficulté à séparer ces deux sphères?
Serge Passolonghi, par exemple, de Renault.
Ok. Je pense que c'est une question intéressante et ça revient à ce que disait Alex Bayen en début. Certes, on est au milieu de la tech ici et donc on parle beaucoup de tech, mais en fait, il faut voir ces briques technologiques que sont l'automatisation, la connectivité et le zéro émission aussi. Hein. C'est nos trois focus stratégiques dans l'Alliance.
Mais hein. Avec l'électricité, on va régler le problème, le zéro émission.
Bien sûr, c'est bien de savoir. Oui, quand je parle zéro émission de véhicule, la stratégie de l'Alliance, c'est bien d'aller vers l'électrique.
D'accord.
On est quand même leader mondiaux. Hein. Désolé pour mon collègue, mais on reste leader mondiaux en volume.
Faites attention, parce que ça va vite progresser, hein, Tesla.
Ces trois briques sont importantes, puisqu'en fait, ce qui compte, c'est que grâce à ces trois briques, on va développer une nouvelle façon d'imaginer le transport et d'imaginer finalement les services. Et c'est une rupture importante pour un constructeur comme Renault-Nissan, puisqu'on a plus de 100 ans de production et de vente de produits. Et donc aujourd'hui, la réflexion stratégique qui va venir très vite, hein, c'est bien de se dire comment est-ce que on va vers de la vente de services. Donc je pense que en termes de vie privée ou vie professionnelle, d'ailleurs, je vois pas tellement bien la perméabilité à laquelle vous faisiez allusion, mais oui, ça va beaucoup changer. De toute façon, il y a qu'à voir comment aujourd'hui les générations Y ou Z consomment du transport. Finalement, pour eux, la voiture, c'est quoi? C'est une app sur un smartphone.
Ce qui est très intéressant avec l'émergence du véhicule autonome, c'est que quand il sera prévalent et qu'on aura des proportions vraiment très élevées, ça va changer la planification urbaine. Pourquoi? Parce que ce véhicule va changer la valeur de votre temps. Si vous pouvez lire le journal ou travailler dans la voiture, finalement, vous pouvez habiter 2 heures plus loin puisque vous avez un bureau qui roule.
Et on a comme c'est le cas déjà avec le TGV ou l'avion.
Exactement. Et donc, nous, on a beaucoup de gens chez nous, comme par exemple Daniel McFadden, hein, qui est le prix Nobel d'économie, qui font de l'économie du transport pour comprendre finalement à quoi ça va conduire. Et on a deux scénarios, on pourrait dire le scénario paradisiaque et le scénario film d'horreur. Dans un scénario paradisiaque, en fait, tout le monde travaille et on peut même arriver à réduire les bouchons. Et dans l'autre, on a des autoroutes complètement congestionnées de véhicules vides qui viennent chercher les gens et qui congestionnent ceux qui sont dessus. La réalité, elle sera entre les deux, mais aujourd'hui, les planificateurs et les gens qui font l'urbanisme ne savent pas finalement où est-ce qu'on va atterrir sur ce spectre.
Est-ce que le big data peut nous sauver là dans ce cas précis?
Tout à fait, parce que quand vous avez des flux considérables de voitures, hein, typiquement en Californie, c'est 2000 voitures par voie sur un autoroute par heure, donc vous faites la multiplication, c'est absolument considérable. L'intelligence artificielle, le contrôle et l'optimisation vont nous apporter des réponses avec les économistes du transport pour comprendre finalement comment réguler ces flux.
Mais qui aura une voiture autonome, à votre avis, Alexandre? Les riches cadres qui pourront se payer ce genre de véhicule? Est-ce que ça sera forcément cher ou pas?
Je pense qu'il y a beaucoup de modèles et je pense qu'à la limite même Alexandre ou Serge seraient plus à même à répondre parce que finalement toutes les compagnies ont leur propre plan. Mais je pense que de toute manière l'ownership des véhicules sera réparti en divers couches. Alors effectivement Tesla c'est aujourd'hui le haut du marché, mais on peut tout à fait voir des compagnies de taxis et d'autres d'ailleurs s'engager de manière très agressive là-dedans.
Robin.
Oui, François, vous parliez d'adoption massive. Justement, j'ai une question pour vous trois, messieurs. Quand on parle d'adoption massive, mais justement, avant cette adoption massive des véhicules autonomes, quelle va être la principale barrière à lever? Est-ce que c'est les questions de hacking, de sécurité? Est-ce que c'est la peur des citoyens de monter dans une voiture sans chauffeur?
Alexandre, avec de Tesla.
C'est une bonne question. Je ne pense pas que ce sera le prix, parce que le prix du matériel sera pas énorme. On parlera de quelques milliers de dollars ou d'euros. Donc je pense qu'il y a plein de gens qui seront vraiment prêts à payer ça. Le gros des coûts seront en logiciel et donc seront répartis sur une grosse masse. Donc pour le client final, ce sera tout à fait acceptable. Le côté psychologique, c'est une bonne question, mais je pense, enfin vu mon expérience, vu les retours qu'on a sur les deux derniers mois de la version autopilot de Tesla. Les retours sont vraiment positifs et les gens en demandent vraiment plus. Donc je ne me fais pas trop de soucis de ce niveau-là. Comme je mentionnais avant, le côté législation, là je pense que ce sera beaucoup plus long à convaincre le législateur. Et voilà, donc je pense que ça répond à votre question.
Alexandre Hague, juste une petite question concernant le positionnement aujourd'hui de Tesla. Mm-hmm. C'est vrai que vous faites des véhicules plutôt haut de gamme, on va dire, mais est-ce que c'est vraiment la philosophie de Tesla ou est-ce que demain vous voulez, tout comme aujourd'hui chez Renault, on trouve une Zoé à 20 000 euros, quelque chose comme ça, peut-être même moins avec les aides de l'État, arriver à ce segment de prix?
Donc, non, complètement, la stratégie de Tesla, c'est d'avoir un vrai impact sur le monde, et donc c'est pas en vendant quelques centaines de milliers de voitures par an.
À 100 000 euros, voilà. Ou 100 000 dollars.
C'est parce que c'est 100 000 euros qu'on pourra en vendre que quelques centaines de milliers.
Oui, voilà, c'est ça.
Ça commence un peu moins cher, hein, quand même.
Mais enfin, si on veut 2-3 options et un peu plus d'autonomie, ça grimpe vite.
Ça va vite, mais là, ça commence à, je crois, 75 000 ou quelque chose comme ça. Mais non, la stratégie, c'est clairement, donc là, on a clairement annoncé notre modèle 3, dont on montrera un prototype en mars et qui sera disponible en 2017 et qui sera dans les 35 000 euros, donc beaucoup, beaucoup plus accessible.
Donc deux fois moins cher que le modèle d'aujourd'hui.
Complètement, en fait. Ouais, complètement. Ouais.
Et ça sera plus une citadine, c'est ça?
Un petit peu plus petite, ouais. Encore pas une petite citadine comme on voit en France, mais une voiture intermédiaire, je sais pas, pour pas citer la concurrence, enfin une genre A4 ou série 3 ou des choses comme ça.
Serge, de chez Renault, ça vous fait un peu peur de voir Tesla vouloir envahir même un segment que vous touchez aujourd'hui avec l'électrique?
Non, ça ne me fait pas peur. L'industrie automobile est une industrie d'optimistes, et donc bienvenue à la compétition, bien sûr.
Oui, je pense qu'il y a la place pour tout le monde. Enfin, ça a l'air assez évident que la traction électrique, c'est le futur. Une fois qu'on a été dans une voiture électrique, ça a l'air assez évident que le futur est là. Et c'est juste une question de combien de temps ça va prendre et pour baisser les prix. Mais la technologie est évidente quand même.
Lila ?
Concernant l'adoption et le déploiement des véhicules autonomes, quel est votre pronostic ? Est-ce que vous pensez que le véhicule autonome va d'abord faire son incursion sur les sites industriels privés,
est-ce que ça avant va d'arriver dans le grand public, c'est ça?
Exactement. Hein,
alors 30 secondes chacun, 30 secondes, s'il vous plaît, parce qu'on est un peu pressé.
Je pense que vous avez dit les deux mots clés qui sont essentiels. Donc d'une part les verticaux, effectivement, dans des communautés fermées, dans des usines, dans des endroits qui sont bien protégés, et d'autre part autonomie partielle, puisque je pense que la fonctionnalité réduite, le fait qu'on puisse détacher les mains du volant, mais on garde un contrôle latéral, c'est essentiel. Donc je pense que les deux voies de progression de l'autonomie, c'est vraiment des verticaux très réduits dans lesquels il y a des contraintes de sécurité bien, comme les bus automatiques, et des fonctionnalités réduites où on peut avoir des caravanes de camions automatiques, mais dans lesquels le conducteur garde sans même un certain contrôle sur l'autonomie.
Serge Passolonghi.
L'adoption, elle vient aussi de la valeur qu'on propose aux clients et des roadmaps que l'on va proposer, c'est-à-dire la façon dont on va amener tout ça. Mmh. Nous, on pense réellement que la valeur sera réellement utile pour le conducteur quand on sera vraiment dans un mode eyes off, c'est-à-dire qu'on pourra effectivement faire autre chose pendant que la voiture conduit complètement.
Et là, ça aura du sens.
Ce qui veut dire que sur cette question de l'adoption, il y a évidemment l'intégration progressive, mais il y a aussi le public, les États doivent s'occuper très sérieusement, et nous aussi, de cette question de où est la responsabilité quand c'est un robot de marque Renault qui est en train de conduire.
Est-ce que c'est Renault, est-ce que c'est l'assurance,
le gros
c'est
challenge il est là.
Véhicule, c'est ça,
le gros challenge il est là, considérant que c'est eyes off qui reste la valeur ultime.
Alexandre Hague, le mot de la fin.
Oui, tout à fait d'accord. Eyes off, c'est la partie utile. Et le point qui va être un petit peu difficile, c'est justement les étapes intermédiaires où on va réussir à faire eyes off assez rapidement sur autoroute.
Alors, eyes off, ça veut dire sans regarder en fait la route, c'est ça, en gros?
Voilà, c'est-à-dire que vous pouvez faire autre chose. Voilà. Vous pouvez officiellement texter, sortir votre ordinateur, sortir votre livre, sortir votre sandwich, ce que vous voulez.
Vous l'avez dit.
Et la voiture n'a pas besoin de vous. Ou si elle a besoin de vous, elle vous donne suffisamment d'avertissement pour que vous ayez le temps de poser ce que vous êtes en train de faire et de reprendre les choses en main. Et donc sur autoroute, je vois ça assez rapidement, à mon avis vraiment quelques années, pas plus. Par contre, tout ce qui va être urbain et interurbain, route de campagne, etc., ça sera beaucoup plus dur. Et du coup, il y aura un petit passage difficile où il faudra que le conducteur comprenne bien quand est-ce qu'il peut faire autre chose et quand est-ce qu'on a besoin de lui. Là, il y a encore quelques détails techniques à résoudre. Hein.
Très bien. Alexandre Barine Berkeley, merci beaucoup. On remercie Alexandre Hague aussi donc de chez Tesla. Et à vous, Serge Pasolonghi de Renault. Merci à tous les trois.
Merci.
L'atelier se poursuit dans un instant. Et restez là parce qu'on va vous réserver un grand moment avec un invité exceptionnel. Il s'agit de Luc Julia qui est en fait le VP Innovation chez Samsung. Et il va nous expliquer la stratégie des objets connectés chez Samsung qui est quand même l'un des constructeurs, on va dire, très important dans le domaine de l'électronique. A tout de suite sur BFM Business pour la suite de l'atelier depuis San Francisco.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Le retour de l'atelier numérique sur BFM Business, merci d'être avec nous. Alors vous le savez, c'est un atelier un peu particulier puisque nous sommes dans la Silicon Valley avec Lila et avec toute l'équipe de l'atelier US qui fête, vous le savez, ses 10 ans. Et aujourd'hui, on va poursuivre avec un autre invité français, francophone, qui est à la tête de l'innovation, il est VP Innovation chez Samsung, Lila. Et on va découvrir pourquoi Samsung est présent ici dans la Silicon Valley.
Et puis surtout, on va en profiter pour poursuivre également sur le thème de la Smart City, parce que Samsung est clairement présent sur le domaine de l'IoT, alors notamment par votre prise de participation dans Sigfox récemment.
Et pour en parler, nous avons avec nous le plaisir et l'honneur d'avoir Luc Julia. Bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes le VP Innovation chez Samsung. Alors lorsqu'on regarde un petit peu votre pedigree, c'est impressionnant. Monsieur Siri, vous êtes passé donc chez Apple il y a quelques années cela, je crois que c'était en 2011-2012. Hein, donc l'un des papas de Siri. On va parler de Samy. Alors là, cette fois-ci, c'est chez Samsung. Alors expliquez-nous pourquoi Samsung est aussi présent dans la Silicon Valley. Alors là, vous nous écoutez, mais on est dans un bâtiment immense, hein, investi par Samsung. Qu'est-ce que fait Samsung ici ?
Donc Samsung a décidé, il y a maintenant à peu près 3 ans, de créer un centre d'innovation dans la Silicon Valley. Ils se sont rendus compte globalement que peut-être il n'était pas suffisant d'avoir des usines et des ingénieurs en Corée. Et ils se sont dit qu'un bon endroit pour faire de l'innovation, ça pouvait être la Silicon Valley. Et donc ils ont le courage, je dirais, de dire il n'y a pas que la Corée dans le monde, il y a aussi la Silicon Valley. Créons quelque chose, essayons d'innover, de changer un peu les choses. Ne soyons pas le prochain Sony ou le prochain Nokia. Essayons de faire en sorte de créer quelque chose là-bas dans la vallée. Donc, il y a maintenant exactement 3 ans, le CEO a décidé de créer ce centre. Avec au début seulement 2-3 personnes, donc c'était vraiment tout petit.
Vous deviez vous sentir seul dans ce grand immeuble.
Oui, enfin, l'immeuble, on vient de déménager dedans il y a juste un mois. Hein, donc,
magnifique édifice d'ailleurs, hein, c'est superbe.
Oui, je vous donnerai pas le prix, mais c'est très, très cher, très joli.
Samsung a les moyens, donc ça va.
On a les moyens et surtout on voulait encore une fois battre Apple, donc avoir notre immeuble avant eux, parce qu'eux, ils construisent leur soucoupe volante là à côté, pas loin, mais on voulait l'avoir en premier. Bon, bref, donc je reviens sur cette idée d'il y a 3 ans, quand le CEO a décidé d'innover autrement, on va dire, et donc dans la Silicon Valley. Il a décidé de mettre donc à la tête un président. Alors chez Samsung, c'est un peu compliqué la structure, je vais pas détailler ça, mais il a décidé de mettre en place un président de Samsung, un président corporate de Samsung dans la Silicon Valley. C'est le premier président en dehors de la Corée. Et il lui a donné les pouvoirs, globalement, de créer une équipe autour de plein de différents sujets qui pourraient amener des choses aux différentes business units de Samsung. Et donc, à l'époque, on était un, donc ce président, plus 3, ce qu'ils avaient appelé les Innovation Fellows. Et ces Innovation Fellows, ils ont apporté chacun une idée, ce sur quoi ils pensaient était Samsung devait travailler pour amener du nouveau business, quoi, et faire le business autrement. Voilà comment ça a commencé. Et maintenant, le groupe lui-même, purement innovation, est de 150 personnes à peu près. Donc ça remplit toujours pas l'immeuble. Mais on a amené aussi depuis d'autres groupes d'engineering, d'autres groupes de business qui ont été réunis dans ce bâtiment ici.
Et donc vous travaillez sur Samy, voilà, qui n'a rien à voir avec Siri, hein, ça ressemble, mais ça n'a rien à voir. Là, véritablement, on est dans la stratégie de vouloir en fait réunir tous les objets connectés de la maison et peut-être même dans l'entreprise, on va en parler. Samsung d'ailleurs a une volonté assez forte d'être presque agnostique, hein, dans ce domaine avec Samy.
Oui, alors ça c'est une des choses aussi qu'on essaie d'apporter à Samsung pour expliquer que le vrai monde, la vraie vie, c'est pas d'avoir que du Samsung. Donc il faut être prêt à incorporer d'autres objets
issus de constructeurs d'ailleurs concurrents.
Tout à fait, oui. Donc il faut juste être prêt à réaliser que les vrais gens, ils ont plein de choses de plein de marques différentes. Ok, donc je pense que ça commence à faire son chemin dans Samsung. C'est pas forcément évident, d'accord, pour eux de réaliser et de comprendre ça. Mais bon, c'est la philosophie de Samy, c'est de dire on va connecter tout et n'importe quoi pour les vrais gens, d'accord. Et en l'occurrence, il y a quelques objets Samsung qui sont connectés aujourd'hui à Samy, mais la majorité ne sont pas des objets Samsung.
Et donc je pourrais connecter mon Fitbit, mon Netatmo, enfin n'importe quel objet pourrait donc se greffer en fait à cette plateforme logicielle, c'est ça ?
Tout à fait. Alors, en fait, aujourd'hui, il se greffe. La plateforme logicielle marche aujourd'hui. Elle est disponible pour les développeurs qui veulent s'amuser avec, qui veulent comprendre comment ça marche. Et aujourd'hui, je peux connecter mon Fitbit, je peux connecter ma WeThinkScale, je peux connecter mon Netatmo. Enfin bon, il y a à peu près 600 quelque chose objets qu'on peut connecter aujourd'hui sur la plateforme. Et si toutefois votre objet n'existe pas dans la plateforme aujourd'hui ou n'a pas la possibilité de se connecter avec les profils qui existent déjà, vous pouvez en quelques minutes créer votre propre profil de votre nouvel objet et le connecter à la plateforme. Donc c'est ça la puissance de Samy, c'est de pouvoir accepter n'importe quoi en très très peu de temps. Donc vous créez des profils pour ces nouveaux objets, ces objets commencent à envoyer des datas et à recevoir des datas de la plateforme et à interopérer avec les autres objets. Et donc c'est ça la beauté et la philosophie, c'est de dire que une fois qu'on est connecté à Internet, une fois qu'on est connecté et que c'est vraiment IoT, ça veut dire Internet of Things, donc on passe vraiment par Internet. Donc une fois qu'on a réussi à faire ce lien, alors l'interopération entre ces différents objets devient très très facile et les applications et services qui y sont liés deviennent magiques. Dans le sens où maintenant le Fitbit va pouvoir parler à justement la plateforme WeThings par exemple, ce qui avant était impossible parce qu'ils veulent pas se parler a priori, mais là on va pouvoir créer des services qui vont créer quelque chose de vraiment utile pour l'utilisateur final.
C'est un peu le médiateur des objets connectés finalement. Il y a des concurrents ou pas de ça à Samy?
Alors à Samy aujourd'hui, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de concurrent. Alors on entend parler de beaucoup de plateformes IoT, d'accord, de plus en plus. Et donc nous, on a commencé il y a 3 ans et on savait très bien que c'était la bonne direction dans laquelle on allait. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, il y a les gros de la région qui commencent à sortir des choses. Alors il y a Amazon, IBM, Google qui vont sortir des plateformes qui ont l'air similaires quand on en parle de point de vue purement marketing. On sait qu'on est encore un peu en avance point de vue purement fonctionnalité. Donc point de vue purement fonctionnalité, on pense et on sait qu'on est toujours en avance, mais on sait aussi que ces compétiteurs arrivent. Donc, au jour d'aujourd'hui, je pense pas qu'on ait vraiment des compétiteurs, mais ça va arriver très très bientôt. Donc, il vaut mieux être dans les premiers que dans les derniers.
Est-ce que, en su cette vocation d'être médiateur entre ces différents objets connectés, il y a également la vocation d'agir quelque part en tant qu'agent de sécurité, à savoir assurer la sécurité de ces communications?
Alors ça, c'est effectivement excessivement important. Sécurité va avec privacy. Et donc, on veut être sûr que dès que les objets vont se connecter, et ce sont des objets, je parle toujours des vrais gens, encore une fois, donc je veux être sûr que mes objets, quand ils vont créer des datas qui sont les miennes, je veux pas que ces datas aillent n'importe où, n'importe comment. Donc la sécurité est excessivement importante, et la privacy, confidentialité des données, va évidemment être quelque chose de très important. Donc ça va de pair, et la plateforme est construite sur... La sécurité, c'est vraiment une des bases de la plateforme. On a mis beaucoup de brain power dans
recherche.
De recherche. Je suis désolé hein, pour les.
On est dans la Silicon Valley.
Mais bon, je devrais pouvoir parler français mieux. Mais donc, on a mis beaucoup de temps à spécifiquement travailler la sécurité et la confidentialité.
Alors Samy est prêt, c'est lancé, ça va arriver, on en est où? On parle du CES de Las Vegas pour un lancement en grande pompe.
Alors on ne parle pas de CES aujourd'hui pour Samy en particulier. Samy est public depuis à peu près un an et trois mois, d'accord. Donc ça fait un petit moment maintenant que c'est là. Pour les développeurs, pour qu'ils jouent avec, comme je dis, c'est un playground, d'accord. Donc c'est quelque chose où ils peuvent aller jouer, ils peuvent aller comprendre comment ça marche, parce que c'est un nouveau concept, c'est quelque chose un peu différent. Donc il faut leur laisser le temps de se l'approprier. On est en ce moment en train de réfléchir à comment ça va être commercialisé dans Samsung. Samsung n'est pas habitué, ne connaît pas le bon chemin pour créer des services aujourd'hui, parce que après tout, Samy, ça va pouvoir créer un nouveau type de business.
Oui, en plus, ça a été assez compliqué pour les services pour Samsung. Il y a eu des services qui ont été lancés et qui se sont arrêtés. Donc là, c'est un autre métier. C'est pas comme vendre un smartphone ou une télé.
Tout à fait. Donc Samsung est très bon et numéro un mondial dans plein de silos comme la télévision, les téléphones, les frigos, etc. Mais c'est vrai qu'en service, on n'a jamais été très très bon pour l'instant. Donc on veut prendre le temps de réfléchir à la bonne structure pour pouvoir lancer Samy en tant que générateur de services. D'accord. Donc est-ce que ça va arriver bientôt? J'espère. Évidemment, c'est mon objectif de lancer ça commercialement. Je dirais. J'espère dans le premier trimestre de 2016.
Bientôt donc. Apple, Samsung, vous êtes l'un des rares à avoir fait ces deux grandes boîtes. Quelle est la différence entre les deux?
Alors, c'est des boîtes qui en fait ne sont pas tellement différentes quand vous pensez à l'innovation. D'accord. Il n'y a pas d'innovation chez Samsung, il n'y a pas d'innovation chez Apple. Là, je suis un peu extrême, exprès, pour bien marquer le coup. L'innovation, et c'est pour ça qu'on a créé cet Innovation Center ici, dans la vallée, pour Samsung, parce que c'est pas quelque chose qui est dans le DNA. Donc, c'est pas dans l'ADN de Samsung, comme on disait tout à l'heure. Et en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas non plus dans l'ADN d'Apple. Apple avait un génie à sa tête, un génie un peu fou, un peu bizarre, comme on a pu voir dans les différents bouquins qui sont parus sur lui récemment.
C'est Steve Jobs, d'ailleurs, qui avait fait appel à vous.
Oui, en l'occurrence, c'est lui qui a spécifiquement choisi Siri et il avait décidé, c'est lui qui a décidé, son équipe avait jamais compris ce que Siri faisait. Et donc, ce gars-là, c'est lui qui vraiment a fait Apple depuis le début, ça on sait, mais même quand il est revenu, c'est lui qui a sauvé Apple vraiment et a fait ce que c'est aujourd'hui. Et donc, malheureusement, je dirais pour Apple aujourd'hui, et j'ai rien contre Apple évidemment, parce que je respecte la boîte tout à fait, il n'y a plus ce souffle qu'il apportait, et quand on regarde vraiment l'innovation entre guillemets dans ces trois dernières années, quatre dernières années depuis qu'il est parti, pas grand-chose, quoi. Et donc, Apple ne sait pas innover de l'intérieur. Ils arrivent à innover de temps en temps par des acquisitions. Mais vraiment, aujourd'hui, c'est compliqué. Donc, en fait, quand vous me donnez la différence entre les deux boîtes, il n'y a pas énormément de différence. Il y en a une de différence. Il y en a une, c'est bon, la boîte coréenne, socialement un peu bizarre, on va dire. Et l'autre, c'est la boîte américaine, socialement aussi un peu bizarre, mais sans sa tête pensante. Donc c'est un peu c'est très intéressant les deux.
Sigfox, donc Samsung a pris des parts dans cette boîte incroyable de qui est en train de construire un réseau mondial pour les objets connectés. Vous êtes à l'origine de ce, comment dirais-je, de cet investissement de la part de Samsung chez Sigfox?
Oui, alors je suis, bon, il se trouve que je connais assez bien Ludovic, le CEO. Je suis toulousain, ça n'a rien à voir, mais
ils sont pas loin.
Ils sont à Toulouse, Je dois dire que depuis le début, donc depuis trois ans, je pousse pour que Samsung considère cette compagnie, pour qu'ils comprennent un peu ce que ça veut faire. Ça me permettait aussi, moi, d'expliquer ce que c'était que les objets connectés, parce que c'est quelque chose qui aussi est compliqué à comprendre. Oui, c'est venu d'ici, et on a réussi à faire cet investissement après deux ans et demi
d'approche et de, il a fallu convaincre Samsung.
Ah oui, il a fallu convaincre Samsung, parce que c'est encore une fois un business complètement différent, et c'est à la limite trop innovant.
Oui, et c'est génial. Rappelons que c'est un réseau, alors qui est pour l'instant dans certains pays, mais qui a l'ambition d'être mondial et qui va permettre de faire communiquer en fait les objets connectés où qu'ils soient finalement, sans Wi-Fi, sans Bluetooth, c'est complètement révolutionnaire. Peut-être encore une petite question concernant l'innovation et la France. On se rend compte que Sigfox c'est une licorne. Enfin voilà, on a des belles sociétés. Pourquoi être ici? Pourquoi pas ne pas être en France pour justement faire de votre métier?
Ouais, ça serait un peu trop long de répondre à la question.
En quelques secondes alors.
Ouais, mais ce que je peux dire juste, c'est que on a ouvert un centre d'innovation à Paris. Donc on a ce centre aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on considère que les ingénieurs français ont une valeur extraordinaire. On aime beaucoup la formation de ces ingénieurs. Donc on est présent maintenant, ce centre d'innovation ici dans la vallée, à une branche, je dirais, à Paris. Donc on est définitivement présent là-bas. Moi personnellement, c'est un peu plus compliqué.
Très bien. Bon, en tout cas, vous êtes là et merci de nous avoir reçus. Luc Julia, donc le VP Innovation chez Samsung. Lila, on va poursuivre cet atelier numérique depuis donc la Silicon Valley, et on vous fait découvrir à l'occasion des 10 ans donc de l'atelier US ces Français qui sont ici dans la Silicon Valley.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Eh bien voilà, cet atelier numérique est presque terminé. Pas de crash test exceptionnellement, puisque vous le savez, émission événement, nous sommes ici à San Francisco pour les 10 ans de l'atelier US. Et maintenant, je vais demander à tous les participants de l'atelier que vous connaissez de se projeter dans l'avenir. Voilà, exercice un peu compliqué puisqu'on parle d'innovation depuis pratiquement 2 heures. Imaginez les 10 prochaines années dans divers domaines avec Guillaume Degroas, Romain Chaperon, Louis Tressard qui est directeur de l'atelier, et puis Nathalie Doré qui est directrice de l'atelier ici US. On va commencer, Romain, par vous et évoquer, alors on en a parlé beaucoup tout à l'heure, de la mobilité, du futur des transports, etc. Mais vous vouliez nous donner votre avis sur ce qui va se passer dans les 10 ans qui viennent.
Bah exactement. Est-ce qu'on est prêt pour 2025? C'est une bonne question, François. En tout cas, moi je suis sûr d'une chose, c'est que je suis prêt à bouleverser totalement la manière dont je vais me déplacer. C'est vrai que quand on regarde les 10 dernières années, ce qui est impressionnant, c'est de voir à quel point la Silicon Valley a pris à bras-le-corps le sujet de la mobilité. Et maintenant, l'innovation et l'avenir du transport, il se dessine plus sur la côte Est, à Détroit, mais vraiment ici, en plein cœur de la Californie. Et effectivement, on en a parlé de la voiture autonome. Moi, il y a quelques semaines, dans les rues de San Francisco, j'ai croisé la voiture sans chauffeur de Google. Et depuis, il y a quasiment pas un jour où je rêve pas le futur où je vais me déplacer quotidiennement au sein de ces voitures sans chauffeur.
Alors, vous l'avez vu, elle était toute seule, il y avait personne.
Alors, il y avait
quelqu'un quand même à côté.
Il y avait quelqu'un à côté, exactement. Mais voilà, elle se déplaçait toute seule et la personne qui était sur le siège conducteur nous faisait des coucous. Il touchait pas le volant pendant que la voiture se déplaçait.
Exactement.
Alors, ça pose des questions, ces voitures autonomes, la question de hacking, de privacy, l'adoption en masse, est-ce qu'on est prêt à rentrer dans une voiture sans chauffeur? Mais moi, je suis convaincu que l'écosystème ici va rapidement répondre à ces problématiques-là pour se concentrer sur le vrai sujet qui est la valeur ajoutée que ces nouveaux modes de transport vont nous permettre.
D'accord, très bien. Merci Romain. Ben c'est pas mal déjà. On va parler dans les transports, mais on va prendre un peu de hauteur avec Louis Tressard. C'est normal, c'est directeur de l'atelier, donc on prend de la hauteur. C'est pas que Romain, c'était pas bien, mais là, on monte d'un step. On va parler d'espace, Louis.
Oui, on va parler d'espace et je partage des rêves, un rêve d'enfant avec les grands du web, les grands visionnaires du web et du digital qui ont comme nous la tête dans les nuages et qui ont gardé cette tête dans les nuages. Si je prends par exemple avec Elon Musk, plus connu comme le boss de Tesla, avec son pari le plus fou qui est de coloniser Mars en 2040. Il a donc lancé en 2002 SpaceX pour ce faire.
Ouais.
Et près de 15 ans plus tard, il a donc sa start-up qui est valorisée à 10 milliards depuis l'entrée, entre autres, de Google au capital. Donc, il a toujours ce rêve le plus fou, malgré un certain nombre de problèmes avec sa fusée, qui est donc de coloniser.
Moi, je ne l'apprendrai pas tout de suite. J'attendrai un peu quand même.
Oui, je crois qu'il vaut mieux. Mais bon, disons qu'on se projette quand même. Enfin, il se projette à 2040 avec son projet de Mars colonial transporteur qui, avant la fin de l'année, donc sera lancé. Et puis, il y a un autre patron, donc encore une fois, dans ces grands acteurs du digital, donc Jeff Bezos, donc, qui est plus connu lui aussi comme le patron d'Amazon, qui est un passionné d'astronomie depuis l'enfance, et qui lui donc a réussi où d'autres ont échoué, qui est de lancer une fusée, en tout cas d'essayer de lancer une fusée et de la récupérer. ce qui est quand même source d'économie.
C'est-à-dire et qu'elle atterrirait en fait de la même manière qu'elle décolle.
Voilà,
d'après ce que j'ai compris.
Exactement, elle atterrit comme elle a décollé.
Verticalement.
Et lui donc a lancé sa société Blue Origin, créée en 2000, donc 2 ans avant SpaceX d'Elon Musk. Donc on est quand même dans une fourchette de temps relativement semblable, avec un objectif aussi partagé, qui est celui d'aller dans l'espace. Un objectif pour Jeff qui est plus des vols à une centaine de kilomètres de l'espace, donc des vols commerciaux où l'on resterait une quinzaine de minutes dans l'espace.
Mais pour voir un peu ce qu'on voit, pour voir la Terre, on va dire,
voilà,
d'une manière incroyable.
Pour prendre de la hauteur. Donc je dirais que moi, la conclusion, c'est qu'on a deux hommes qui ont tout réussi quelque part et qui utilisent à la fois leurs moyens financiers et technologiques pour
développer des rêves, en fait.
Exactement, hein, voilà. leur rêve d'enfance, voilà. Et puis le faire partager, surtout.
C'est ça qui est génial. Merci beaucoup, Louis. On va maintenant s'intéresser à la vision de Nathalie Doré, la directrice de l'atelier US, pour parler d'e-santé avec vous, Nathalie.
Et oui, alors moi, je parie sur la e-santé. Alors, c'est vrai que c'est pas un sujet nouveau. Hein. On en a beaucoup parlé ces 10 dernières années, mais avec beaucoup d'axes sur les objets connectés, le suivi, le bien-être. Alors, moi, je parie sur les 10 prochaines années qu'on sera plus vraiment sur les sujets, allez, on va le dire, graves de la santé, hein, donc traiter les malades, détecter des maladies très graves, donc on le voit, hein, ça démarre. Alors moi je parie sur les imprimantes 3D pour la peau, les os, c'est des choses qui commencent mais qui sont aujourd'hui, bon, vraiment...
C'est vrai qu'on arrive à imprimer en labo de la peau, hein, avec
ouais,
des imprimantes 3D.
Ça y est, 3D. On arrive à le faire, donc maintenant on va passer dans une phase plus industrielle sur ces projets-là. On va aussi plus avoir d'intelligence artificielle et de big data pour détecter le cancer, le traiter, donc là aussi ça démarre avec IBM Watson sur Health, mais on n'en est qu'au début. Il commence avec quelques hôpitaux aux États-Unis, donc je pense que ça va vraiment maintenant se généraliser. Et aussi, on fera plus de portraits génétiques et moléculaires. Alors là, pareil, ça démarre. On est encore sur des sujets plus information santé, mais on ne va pas jusqu'à voir les maladies, donc on ira plus dans ce sens-là. La question avec tout ça, c'est jusqu'où l'homme voudra aller, puisque la technologie le permettra. Est-ce qu'on voudra tous faire des portraits génétiques et moléculaires pour savoir si on est malade avant même d'avoir des premiers symptômes ? Là reste la question, puisque ça fait quand même un petit peu peur.
Oui, ça peut ouvrir une psychose, bien sûr. Ouais. Et puis après, il y a le transhumanisme, hein, Nathalie. Mais bon, ça, c'est...
Alors, Google investit beaucoup dessus.
C'est
donc,
un autre débat. Mais
je pense qu'ils vont beaucoup avancer dans les prochaines années. Bon, d'ici là, tuer la mort, je crois qu'on a encore quelques années à vivre et à débattre là-dessus.
Oui, mais il y a des médecins qui sont très en avance dans ce domaine-là, qui estiment que, peut-être que demain, l'être humain pourra être immortel ou en tout cas vivre plusieurs centaines d'années. C'est ça qui est fascinant. Merci beaucoup, Nathalie. Nathalie.
Merci.
On va donner maintenant la parole à Guillaume de Groisse pour parler de langage avec les machines, c'est ça, Guillaume ?
Ah oui, de langage avec les machines. C'est-à-dire que finalement, on est tous là en train de parler de la science-fiction de notre enfance. Hein. Est-ce qu'on n'a pas envie d'aller dans l'espace, d'être immortel ? Est-ce qu'on n'a pas envie de parler avec un robot comme dans Star Wars? Finalement, l'intelligence artificielle, c'est un sujet de rêve, c'est un sujet de fantasme, hein, se dire que une intelligence de machine soit aussi évoluée que celle d'un être humain. Et que cette machine, elle pourrait apprendre et dialoguer, discuter complètement avec nous. Bon, en fait, on en est encore loin, mais ça progresse. Deux exemples, c'est par exemple Siri chez Apple, hein, que nous avons tous...
Ouais, et qu'on utilise, enfin pour certains, assez souvent. Hein.
Voilà, exactement, qu'on a finalement dans la poche aujourd'hui, tous les jours avec nous.
Et on avait l'un des papas de Siri tout à l'heure en interview, hein, Luc Julia de Samsung. Oui, parce que maintenant il est chez Samsung, il est parti d'Apple. Oui.
Sans commentaire sur ce sujet. Un autre exemple, c'est Amazon Echo que Nathalie nous a permis de tester ici à San Francisco.
Alors, qu'est-ce que c'est que ça ?
Alors, Amazon Echo, c'est une espèce de petite boîte qu'on peut mettre sur sa table basse dans son salon et à qui on peut parler. Et qui répond à nos questions.
Si on n'a pas d'amis, c'est top.
Oui, si on n'a pas d'amis, c'est
ça,
top.
C'est génial.
Et si on a besoin de savoir le temps qu'il fait sans ouvrir ses rideaux, ou alors de savoir à quelle heure les prochaines séances de ciné, ça marche super bien.
Alors on est un peu jaloux parce que c'est pas encore sorti en France.
Non, c'est pas encore sorti en France.
Ouais.
Après, sur notre sujet d'intelligence artificielle, Amazon Echo, c'est génial, mais on peut pas quand même vraiment parler avec Alexa réellement. Hein. D'autres signes encourageants de l'évolution de cette intelligence artificielle, c'est que il y a quand même 4 ans, nos amis d'IBM avaient permis à Watson de remporter une partie de Jeopardy. Hein, donc là, c'est aujourd'hui, vrai. Ils permettent d'évoluer dans la santé, mais c'était quand même il y a 4 ans déjà un premier sujet. Mais en fait, le langage humain, c'est quelque chose qui est relativement complexe, et les machines n'y sont pas encore. Hein, donc on n'est pas encore au niveau de voir débarquer Skynet chez nous. Donc
d'un côté, ça me rassure parce que
Skynet, mais voilà. Mais c'est ça quand même qui va arriver d'ici une dizaine d'années, c'est qu'on aura une interaction avec les machines.
Quoique Schwarzenegger n'est pas loin d'ici. On sait jamais.
C'est vrai qu'il
Skynet,
est en Californie.
Terminator, Schwarzy. Ouh là là, attention. Merci beaucoup Guillaume, Romain, Louis, Nathalie. Voilà, on était très très heureux de faire le déplacement ici à San Francisco pour cet atelier numérique exceptionnel. Merci à Lila Megraoua, qui a été la productrice et qui est la productrice de cette émission chaque semaine et qui nous a permis d'avoir tous ces intervenants de qualité avec Nathalie, bien sûr, et toute l'équipe de l'atelier US. Merci encore.
Merci.
Merci à tous.
Et on reprend nos bonnes vieilles habitudes dès samedi prochain, puisqu'on sera de retour dans nos studios parisiens. D'ici là, n'hésitez pas à réécouter cette émission via podcast, hein, bien sûr, sur le site de l'atelier. Si vous avez raté le début, vous avez raté plein de choses intéressantes. Et puis, bien sûr, sur le site de l'atelier. À très vite. Bon week-end à vous tous et à samedi prochain.